J'aimerais ce matin parler d'un thème qui est revenu à plusieurs reprises dans mon esprit ces quelques jours. Et j'aimerais parler de défis ce matin. Et peut-être avant d'aller un peu plus loin, il serait bon qu'on puisse peut-être redéfinir ce qu'est un défi. Qu'est-ce qu'un défi ? Un défi, c'est l'action qui consiste à provoquer, à défier donc, quelqu'un à faire une chose. Le défi, c'est quoi ? C'est, pour ainsi dire, une invitation à un challenge, à un tournoi ou à une compétition. Le défi, c'est quoi ? C'est finalement une invitation à un affrontement, à un combat, tant au sens propre du terme qu'également au sens figuré. Et un exemple que j'ai voulu vous rappeler ce matin et que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est celui de ce géant qu'on appelait Goliath, ce Philistin qui faisait environ 3 mètres et quelques de hauteur et qui, pendant 40 jours, matin et soir, finalement défiait tout le peuple d'Israël. J'ai relevé pour vous un passage parmi tant d'autres, 1 Samuel chapitre 17. Et le verset 10, il nous est dit, le Philistin ne le cherchait pas. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Voilà un exemple flagrant, au sens propre du terme, un défi qu'un homme a lancé à tout un peuple, le peuple d'Israël. Et vous savez de quelle manière Dieu s'est choisi un petit jeune homme, puisque à l'époque David n'était qu'un adolescent. Et ce petit jeune homme, avec un grand courage, a relevé ce défi et mieux encore, a triomphé et a coupé la tête de ce géant. Que Dieu soit béni. Mais je voudrais aujourd'hui parler d'un double défi que l'Église de Jésus-Christ. Quand je dis l'Église de Jésus, je parle des frères et des sœurs qui ont été rachetés par grâce. C'est nous l'Église de Jésus-Christ. Et je me dis, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en face d'un double défi. Double défi que nous lance finalement ce monde et que nous avons besoin de pouvoir relever par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez découvrir ce double défi ? Vous auriez dit non, on l'aurait découvert quand même. Mais vous avez eu raison de dire oui. Alors pour ce faire, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 66. Et le verset 5. Ésaïe chapitre 66 et le verset 5. S'il y avait un titre bien sûr à donner à ce message, vous l'avez compris. Double défi de l'Église de Jésus-Christ. Et nous lisons ensemble. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent. Et même vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais de Dieu de rajouter par la bouche de son saint prophète, mais ils seront confondus. Avez-vous compris où se trouvent ces deux défis ? Eh bien que les incroyants, les incrédules de ce siècle pourraient aussi nous lancer. Premièrement, que l'Éternel montre sa gloire et deuxièmement, que nous voyons votre joie. Nous avons eu raison de pouvoir chanter ce dernier cantique, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et plaise à Dieu que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de ces hommes, de ces femmes que nous pouvons côtoyer, afin qu'ils puissent voir briller la splendeur, la gloire de l'Évangile au travers de l'Église de Jésus-Christ. Finalement, quand on relit bien ce premier défi, puisqu'il faut commencer par le premier point, que l'Éternel montre sa gloire. Finalement, ce n'était pas tant au peuple d'Israël, celui qui était attaché à l'époque au Seigneur, que ce défi était adressé. Indirectement, ce défi était lancé aux oreilles de l'Éternel. Que l'Éternel montre sa gloire. Mais la vérité, c'est que la gloire de Dieu, j'ai envie de dire constamment, se trouve devant leurs yeux et ils ne la voient pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que toute la création qui nous entoure est un témoignage perpétuel, constant, de la gloire de notre Dieu. On s'est régalé hier avec les jeunes qui étaient là. C'est notre frère Philippe Malfitano qui nous avait proposé de regarder un court métrage sur la création de Dieu. On est ébahis tant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, voir ce que notre Dieu a su créer. Et on comprend bien que ce n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Il tient l'univers entre ses mains. La Bible nous dit qu'il connaît même les cheveux qui se trouvent sur notre tête. Est-ce que vous êtes amusé un jour à compter vos cheveux? Vous savez que suivant les saisons, eh bien, il y a un nombre de cheveux qui tombent. Il connaît l'infiniment grand, l'infiniment petit. On est faisant partie d'une galaxie parmi des milliards et des milliards d'autres galaxies. Les gens essaient de trouver des mesures pour essayer de mesurer ce monde, cet univers qui nous dépasse, ce cosmos qui nous dépasse. La Bible dit dans Psaume chapitre 19, versets 1 et 2, il y a des passages magnifiques lorsqu'on prend le temps de lire la Bible. Psaume chapitre 19, versets 1 et 2. Au chef des chantres, et c'est David qui a composé ce merveilleux cantique, Psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et on a besoin d'avoir des yeux pour voir, pour réaliser la grandeur de notre Dieu. Il est Dieu, il est tout-puissant. Et il vous connaît ce matin. Peut-être vous qui venez pour là ou les premières fois. Il vous aime. Et nul besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Il sait tout de vous. Mais il a le pouvoir, alléluia, de vous rendre libre. Il a le pouvoir de vous bénir ce soir, de sécher même vos larmes. Alors, arrête de pleurer et tourne-toi vers ce Dieu vivant et vrai. La venue même de Jésus, le Fils de Dieu, sur terre fut aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, on arrive à une période qui est très connue dans le monde entier, c'est donc la période de la fête de Noël. Mais nous voudrions plus que jamais, au travers de cette fête, cette période de Noël, eh bien nous rappeler fortement que finalement Dieu, à travers son Fils Jésus, est venu marcher parmi les hommes. C'est Jésus, c'est finalement Emmanuel, Dieu avec nous, qui a accepté de demeurer parmi les hommes, sur la terre des hommes. Et là aussi, on peut dire que finalement, les contemporains de Jésus ont vu la gloire de Dieu littéralement marcher parmi eux. Mais est-ce qu'ils ont su pleinement le discerner? C'est l'apôtre Jean, dans son évangile, qui a exprimé cette parole. Jean chapitre 1 et le verset 14. Parlant de Jésus, qui est la parole qui s'est faite chair, c'est bien sûr une image, vous l'avez compris. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi ? Sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a comme une insistance de la part de l'évangéliste, eh bien Jean, en parlant de la gloire de Dieu, littéralement partout où Jésus passait ses pas même, inscrivait la gloire. Partout où il allait, il manifestait la puissance même de Dieu. Des guérisons par-ci, des guérisons par-là. C'est celui qui a marché sur les eaux. C'est celui qui a nourri avec 5 pains et 2 poissons à bien des milliers de personnes. C'est celui qui a ressuscité des morts. Quand il a dit « Lazare, sors !» Et le bonhomme est sorti, malgré ses liens. Dieu est tout-puissant. La gloire même de Dieu, ils l'ont vu. Mais les Juifs incrédules et aveugles n'ont pas su également reconnaître Jésus dans toute sa splendeur et sa gloire. Si bien que souvent les Juifs, ce qu'ils cherchaient à faire, et je parle surtout des chefs religieux de l'époque, ils cherchaient à le coincer et même lui lancer des défis. Et j'en ai relevé un pour vous. Quand par exemple dans Jean chapitre 2, verset 18 à 22, je vous laisse le temps de le chercher, Jean chapitre 2, du verset 18 à 22, regardez ce qu'il est dit. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Autrement dit, eh bien, Jésus, fais-nous un miracle là maintenant. Et Jésus de leur répondre, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il est beau notre Seigneur. Et puis comme un parfait juif, eh bien, une question, il a répondu par une autre question. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et les juifs dirent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais on l'a compris et Jésus l'explique plutôt, eh bien, l'auteur de cet évangile, il parlait du temple de son corps. Il ne parlait pas de ce temple, effectivement, le troisième temple que Hérode a érigé et qui a, effectivement, dans le temps, eh bien, tellement c'était un magnifique temple, eh bien, qui a duré 46 ans en construction. Mais Jésus parlait de son propre corps et il parlait même de sa mort. Il savait qu'il allait mourir. C'est ça la réalité. Et au cœur même de l'évangile, on voit que Dieu, eh bien, dans son amour, nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus, son fils, afin qu'il puisse venir prendre notre place sur ce bois infâme. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et on a vu de quelle manière il a relevé le défi et même eh bien, leur a montré qu'il a honoré leur demande. Jésus lui-même a vécu le miracle de sa propre résurrection par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, il est sorti du tombeau et il est vivant au siècle des siècles. Jésus est là ce matin. Pour ça, c'est l'invité d'honneur. C'est lui qui nous intéresse. Merci Seigneur pour la communion fraternelle et qui que nous soyons ici présents, nous sommes tous accueillis par le Seigneur. Mais celui qui nous intéresse, c'est Jésus. Un seul nom qui nous intéresse, c'est Jésus. C'est lui qui a transformé nos vies et qui est capable de transformer également, alléluia, vos vies, vous, peut-être qui ne le connaissez pas. Que Dieu soit béni. Et aujourd'hui encore, j'en arrive, eh bien, les incroyants lancent un défi à l'église de Jésus, à l'ensemble des chrétiens nés nouveaux, en nous disant, eh bien, que votre Dieu nous montre sa gloire. Certaines personnes, on les rencontre, ils nous disent, mais si votre Dieu, il existe, ben, qu'il me guérisse. Moi, je suis atteint d'une maladie incurable, ben, qu'il me guérisse. Si votre Dieu existe, eh bien, qu'il délivre mon fils, eh bien, qui est atteint et qui est lié par la drogue. Si votre Dieu existe, eh bien, qu'il m'accorde la paix et le repos, car il me faut beaucoup de cachets pour dormir. Et je pourrais rallonger la liste. Mais nous, chrétiens qui vivons les derniers jours, nous avons besoin de pouvoir, avec une grande foi, relever le défi. Et leur dire, en droit dans les yeux, oui, notre Dieu, il est bel et bien vivant. Et il est l'espoir du monde. Il est ton espoir si, eh bien, toi, à ton tour, tu peux pleinement lever les yeux vers lui et commencer à l'invoquer, commencer à crier. Nous avons besoin d'implorer la grâce de Dieu et voir la gloire manifeste de Dieu se manifester autour de nous afin, eh bien, qu'il puisse délivrer. Afin qu'il puisse guérir, afin qu'il puisse restaurer, afin qu'il puisse transformer, afin qu'il puisse réconcilier, afin qu'il puisse manifester des miracles et des prodiges. Jésus n'a pas changé. Hein. Frères et sœurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je crois aux miracles. Ça a été, j'ai envie de dire malheureusement, toute ma tendre enfance pour avoir vu l'œuvre de Dieu et ce que Dieu est capable de faire. Et je comprends que c'est qu'une partie de ce qu'il est capable de faire parce que de toute façon, Dieu, il est illimité, il est tout puissant. Il est El Shaddai. Et quelle que soit ta situation, mon frère, ma sœur et mon ami, sache que Dieu est tout-puissant. Il peut manifester pleinement sa gloire. Et bonne nouvelle, eh bien, Dieu désire justement manifester sa gloire. Il désire la manifester à travers son Église, à travers chacun d'entre nous. Et il s'agit pour cela, eh bien, pour nous, de pouvoir le croire. Et c'est là où il y a le hic. Est-ce que nous croyons que le Seigneur, en ce 21e siècle, est capable encore de répondre aux prières ? Est-ce que nous croyons même en ce 21e siècle que nous-mêmes, en tant que chrétiens, eh bien, on est capable d'imposer les mains à nos enfants s'ils sont malades et qu'ils retrouvent la guérison ? On n'est pas capable de prier eh bien, pour notre collègue de travail ? On n'est pas capable eh bien, de pouvoir amener quelqu'un au Seigneur ? On est appelé à pouvoir spirituellement enfanter des âmes. Et que nous puissions porter beaucoup de fruits. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et en plus de ça, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et si nous commençons à regarder au Seigneur et nous abandonner à lui, eh bien, il saura nous utiliser d'une manière extraordinaire. Mais encore faut-il le croire. C'est exactement ce que Jésus a dit à notre amie Marthe, la sœur de Marie, mais aussi eh bien, la sœur eh bien, de ce défunt Lazare. Quand Jésus est venu les rejoindre pour ressusciter Lazare, Marthe a relevé la chose. Mais mon frère, ça fait 4 jours qu'on l'a enseveli et il sent déjà. Et vous comprenez qu'à l'époque, il n'y avait pas des endroits pour conserver les corps. Dès que la mort était constatée, on ensevelissait eh bien, le défunt et puis on le mettait dans un sépulcre. Et c'était le cas de Jésus. Et c'est alors que Jésus a dit Jean, chapitre 11 et le verset 40... Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi ? La gloire de Dieu. Et c'est quelque chose, une vérité que Dieu vous peut-être voudrait rappeler à quelqu'un. Arrête avec tes limites. Arrête avec tes raisonnements. On peut penser que, ah ben non, mais ça, le Seigneur, il ne peut pas. Incessamment, inconsciemment, je le dis, on a tendance à rabaisser Dieu au plan humain. Mais Dieu, il est tout puissant. Et parce que Marthe fit le choix de croire au Seigneur Jésus, Ce jour-là, elle vit la gloire de Dieu. Imaginez-vous cet instant. Oh, combien j'aurais voulu être là. Il y avait plusieurs juifs qui étaient là. Tout le monde connaissait l'affaire de Lazare. Qu'est-ce que Jésus va faire là, en ces instants? On l'a vu un peu pleurer bien devant le tombeau. Les gens disaient, il est venu trop tard, mince. Il n'a pas pris le bon train ou il est parti trop tard. Jamais le Seigneur est en retard. Écoutez-moi, jamais le Seigneur est en retard. C'est nous qui nous agitons. C'est nous qui avons notre plan. Seigneur, tu tardes. Qu'est-ce que tu fais? Il sait très bien ce qu'il fait. Et j'ai beaucoup aimé l'image qui a été donnée par ce don spirituel. On s'attend à ce que le Seigneur puisse agir de telle manière, tac, tac, on a déjà tout pensé. Seigneur, il faut que tu fasses... On va finir par donner des ordres au Seigneur. Mais il a enlevé le dessous de la cage. Et c'est à nous de nous soumettre. C'est à nous de faire ce qu'il nous demande de faire. Et ce jour-là, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il avait demandé à ce qu'on puisse rouler la pierre devant le sépulcre. Là, on avait enseveli Lazare. Et c'est là qu'il y a eu toutes sortes de raisonnements. Mais Seigneur, il sent déjà. Et Jésus dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et alors que le Seigneur, après avoir rendu grâce d'une parole, parce qu'il est la parole créatrice, Lazare, sors! Et vous voyez ce mort, rempli, entouré de bandelettes, sortir. C'est un véritable film. Walt Disney serait frustré là. Parce qu'en plus de ça, c'est pas un conte de fées, c'est véritablement ce qui s'est passé. Et imaginez-vous les gens crier, Marthe se tenant la tête, etc. Mais Jésus, impassible, tranquille, souriant certainement. Parce que le Dieu que nous servons, c'est celui qui a dit « Je suis la résurrection et je suis la vie ». J'ai envie de te dire quelque chose, mon frère, ma sœur, et peut-être toi, ami qui viendrais pour là ou les premières fois. Dieu te lance à son tour un défi. Et il te dit ce matin, tu veux voir ma gloire? Alors fais agir ta foi. La foi, on l'a tous. Elle est dans le cœur. Mais il s'agit de l'activer. Il s'agit de la mettre en mouvement. Il s'agit de pouvoir agir. Il s'agit de passer à l'action. Tu connais les promesses de Dieu. Tu connais ce qu'il te demande à faire. Il s'agit pour toi de pouvoir agir. Passe à l'action. Que ta foi soit agissante. Qu'elle ne soit pas passive. Mais au contraire, active. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, et c'est encore dans un psaume que je voudrais vous conduire, c'est le psaume 107. Le psaume 107, il est merveilleux, il parle de différentes situations, mais il y a quelque chose qui attire mon attention et que je voudrais placer devant vos yeux, psaume chapitre 107, et le verset 23 et 24, et comme on l'a chanté tout à l'heure, que Dieu nous puisse nous donner à voir spirituellement l'enseignement qu'il veut nous accorder au travers juste de ces quelques versets. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Il faut d'abord descendre et puis après embarquer. Bien dans la barque où se trouve le Seigneur Jésus. Et puis aussi, surtout, travailler. On voit là un peuple de Dieu qui est en mouvement et je m'adresse aux chrétiens. Tu veux voir la gloire de Dieu? Le Seigneur, lui, il est prêt. Il n'a pas changé. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais mon frère, ma sœur, que fais-tu? Est-ce que ta foi est active? Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce que, autour de toi, tu libères cette gloire qui est au-dedans de toi? C'est pas toi qui vas faire, c'est Jésus. Seuls ceux qui se disposeront à mettre leur foi en action, en travaillant au salut des perdus, j'ai envie de dire, seront dans les conditions favorables pour voir la gloire de Dieu. Au vu de ce que je viens de lire, puisqu'il est dit au verset 24, « Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles. » D'autres versions vont dire, « Et ses prodiges, ses miracles extraordinaires au milieu de l'abîme. » On a besoin, excusez-moi les frères et sœurs, on a besoin de se mouiller. C'est une chose de rester sur le rivage. C'en est une autre, d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit « Passons de l'autre bord. » Car les grandes eaux sont pour nous l'image de ce monde qui est agité. Ces gens qui ne savent où aller, ils avancent, ils reculent, c'est le mouvement des vagues. Mais sur cette barque, on est capable, avec la grâce de Dieu, de pouvoir entendre la voix du Seigneur qui dit « Jetez le filet. » on a besoin de travailler d'une manière effective. Et c'est là, dans l'action de notre foi, eh bien, que nous verrons la gloire de Dieu. Montre-nous, alléluia, ta gloire, dit eh bien, les incroyants, les incrédules, mais on a aussi à faire un deuxième défi. Et on l'a vu au travers de ce texte qu'on a lu en introduction. On reprend Ésaïe, chapitre 66, verset 5. Que l'Éternel montre sa gloire, mais aussi que nous voyons votre... Ah, merci Frédéric. Et que nous voyons votre... Montrez-moi votre joie, s'il vous plaît. Montrez-moi votre joie ce matin. Quelqu'un dit, il n'y a pas plus triste qu'un triste chrétien. Les incroyants, les athées, les sceptiques ne se laissent plus tromper par les apparences religieuses. Ce qu'ils veulent voir, ou même rencontrer, ou même écouter, entendre, c'est d'authentiques croyants qui sont remplis de la joie du Seigneur. Vous savez, je constate avec vous que ce monde est privé, c'est le cas de le dire, de cette véritable joie. La joie devient une denrée rare dans ce bas monde. Et les gens, il ne faut pas, certainement pas les accuser, ils cherchent à bien pouvoir trouver cette véritable joie, ils cherchent à pouvoir se divertir comme ils peuvent. Mais au plus profond d'eux-mêmes, pour la plupart, ils sont atteints de ce vide, de cette profonde tristesse qu'ils cachent. Parce qu'on est un monde où on n'est pas vrai les uns les autres, on se cache derrière des masques, derrière des sortes de choses. Alors, pour ça qu'on leur propose toutes sortes d'émissions pour rire, pour machin, pour se détendre, mais le cœur est triste. C'est ça la réalité. Mais il n'en est pas ainsi pour le véritable chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il possède une joie ineffable, une joie surnaturelle, une joie qui est alimentée par Dieu lui-même, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne dépend pas du prix du carburant à la pompe, une joie qui est alimentée, alléluia, parce qu'un jour on a accepté le salut de Dieu. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il peut se faire qu'on soit même ce matin ici présent dans ces lieux et être quand même touché par une tristesse ou par une autre. Quand on passe les épreuves, ce n'est pas toujours évident et peut-être on n'a pas cœur à pouvoir bien esquisser un sourire sur le visage. Mais la joie de Dieu reste demeure au plus profond de nous-mêmes par rapport à notre salut. Et d'ailleurs, c'est notre consolation, même dans les moments difficiles. La joie de l'Éternel sera ma force et sera votre force, mon frère, ma sœur. La joie du salut, mais aussi l'espérance, eh bien, qui est pleinement attachée. Il y a un vieux cantique, vous le connaissez mieux que moi. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux d'appartenir à Jésus. Je suis heureux de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Finalement, je vous le dis, hein, franchement, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Et je le dis avec la joie sur les lèvres, mais la tristesse dans les yeux. Mais c'est des larmes de joie. Je sais que je lui appartiens. Les gens peuvent me dire ce que... Je ne suis pas parfait, je suis loin d'arriver au bout, hein. Je suis comme vous, à chercher à bien ressembler à notre Seigneur Jésus. Je sais une chose, c'est que tu es devenu mon Père. On te regardait avec les ados hier, à bien tous ces scientifiques qui, tour à tour, à bien ce étaient là en train de tâtonner. Finalement, pour reconnaître que Dieu est bien la base, à bien de toute cette création. Moi, je souriais et j'étais fier de mon papa. On te montrait le petit colibri qui commence à battre des ailes, des choses extraordinaires. Vous savez que chaque jour, les gens découvrent, les scientifiques et chercheurs ensemble découvrent eh bien, des nouvelles espèces animalières. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dieu, Dieu grand, et ils cachent des choses même au fin fond des fosses, des abîmes, des océans. Il y a encore des choses qui sont cachées, on ne sait pas tout. Hein. Il est infiniment grand et nous l'avons pour Père. Et c'est ça qui me donne de la joie. Un jour, il a rencontré ma route, il m'a sauvé. Et puis un jour aussi, eh bien, je suis passé par les eaux du baptême, tout comme notre sœur Marilyn. Et là, je suis en route pour le retour du Seigneur, parce qu'il viendra sur les nuées et nous partirons, nous décollerons, que Dieu soit béni. Et c'est cette joie divine et surnaturelle que les incroyants désirent voir sur notre visage. quelque chose qui va les dépasser, qui va les intriguer, quelque chose qui aura même un impact sur leur vie. Et ça, je peux le confirmer, parce que ça a été aussi une partie intégrante de mon témoignage. Je vous l'ai déjà dit, on était dans une église sur le nord de la France. Je dis le nord, c'est à Paris. Et là, et très jeune, je voyais des miracles. C'était quelque chose, monnaie courante, les dimanches après-midi. Des aveugles qui retrouvent la vue, des boiteux qui se mettent à marcher. Des gens atteints du sida, revenant avec le papier, le médecin qui disait, eh bien, on déclare le miracle. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas expliquer. Mais nous, on sait expliquer. C'est Jésus. Un seul mot, c'est Jésus. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Hein. Jamais j'ai guéri quelqu'un. Et si un jour je guéris quelqu'un, prenez votre jambe à vos deux coups et courez. C'est Jésus qui guérit. C'est lui qui doit, à qui revient la gloire, que Dieu soit béni. Oui, on peut l'applaudir. Jésus, c'est lui qui sauve. C'est lui qui bénit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui est capable, de t'apporter la vie encore en ce matin. Ce qui m'a interpellé, ce qui m'a attiré au Seigneur, j'étais encore un préadolescent, j'étais dans cette grande salle, c'était un dimanche matin, et comme d'hab, excusez-moi l'expression, comme d'hab, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Quelquefois, le prédicateur n'a même pas fini de prêcher, que des gens commençaient à pleurer dans l'auditoire, des délivrances par-ci, par-là, des hommes, des femmes qui venaient pour la première fois, se levant, disant, je suis guéri, j'avais une tumeur et un cancer, ceci, j'ai plus rien, j'ai plus mal, j'ai plus... C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu, il ne reste le même, il est capable encore d'agir encore aujourd'hui. On a besoin de retrouver cette ferveur et voir notre foi être activée tout à nouveau. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, c'est pas moi qui va, c'est toi qui vas faire. Appelons le miracle, appelons la grâce de Dieu, appelons, alléluia, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce cadre-là, eh bien, tout jeune, j'ai vu deux chrétiens manifester la joie sur leur visage. Et là, je commence à me gratter la tête. Moi, je suis né à l'école du dimanche, au peu cher. J'ai fait toute l'école du dimanche, tout ce qu'on peut, voilà, etc. Début jusqu'à la fin, dès ma naissance, j'ai côtoyé les églises, j'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu. Ça, c'est clair. Mais ce jour-là, au de mes, peut-être 12, 13 ans, j'ai dit, mais je chante comme eux, je me dis chrétien comme eux, mais la joie qu'ils ont sur leur visage, je ne l'ai pas. Et tout petit que j'étais, Je me suis vu en train de pleurer. J'essayais d'essuyer mes larmes. J'ai dit, il ne faut pas que les gens me voient comme ça. Ce n'est pas moi, ça. Mais ce jour-là, il y avait un tête-à-tête avec Dieu. Dieu m'a montré que j'avais besoin de le rencontrer d'une manière personnelle. J'avais besoin de rencontrer non pas une religion, mais un sauveur. Et mieux encore, un Seigneur, un Père. Il m'a dit, tu vois, Joël, tu te dis chrétien comme eux. Mais cette joie-là, eh bien, tu ne l'as pas. Et tu ne l'as pas parce que tu ne me connais pas d'une manière personnelle. Tu ne m'as pas encore donné pleinement ta vie. Tu ne t'es pas confié à moi. Et puis, de surcroît, tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Et ce n'est que plus tard, parce qu'on était en région parisienne, quand je suis reparti sur la Martinique, c'est dans une petite salle, que le Seigneur m'a fixé rendez-vous. Et là, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et j'ai signé en bas à droite. J'ai dit oui au Seigneur, pour la vie, pour l'éternité. Ensemble, nous serons pour l'éternité. Voilà ce qui m'attend, frères et sœurs. Et chacun doit parler pour sa part. J'ai l'assurance de mon salut. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est lui qui m'a accordé cette joie. Et cette joie, nous avons besoin de pouvoir la manifester, la libérer de nos cœurs. Oui, le Seigneur, il sait tes épreuves, tes difficultés, mais réjouis-toi de ton salut. Parce que rien ni personne ne peut enlever cette joie que le Seigneur lui-même a semée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que pour relever ce défi, il faut ni plus ni moins être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, il y a d'abondante joie devant ta face. Plus je vais passer de temps devant le Seigneur, plus je vais ressortir de ces moments-là illuminés, remplis de joie. Frères et sœurs, si on périclite dans notre vie spirituelle, c'est parce qu'à un moment donné, on a commencé à abandonner la parole de Dieu. À un moment donné, on a commencé à péricliter concernant la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est un combat de chaque jour. On a arrêté de mettre notre foi en action. Et je vous dis, il faut de la foi pour ouvrir la Bible. Il faut de la foi pour prier. Il n'y a aucun incrédule, dans le vrai sens du terme, qui peut arriver à pouvoir ouvrir la bouche pour converser avec un Dieu invisible. Le simple fait de prier Dieu est la preuve que la personne, quelle qu'elle soit, se dispose à mettre sa foi en action. La prière, c'est mettre notre foi en action. Tournez-le comme vous voulez. Mais si je me relâche dans ça, même après des années de conversion, ah ben, oh, je connais la Bible. Il y en a, ils pensent qu'ils connaissent la Bible. Oh, j'ai déjà entendu, du déjà vu. Mon frère, ma sœur, attention. Comment si facilement on peut s'enquiloser avec le temps et perdre de vue le Seigneur. Perdre de vue le Seigneur. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. On va conclure. Que dire en conclusion ? L'Église de Jésus-Christ est devant donc un double défi, on l'a vu. Le premier, les hommes disent que Dieu montre sa gloire. Et nous l'avons vu, bien sûr. Dieu va montrer sa gloire si eh bien, son Église, entre autres, se dispose à pouvoir mettre sa foi en action. Et puis, deuxième point, eh bien, il demande eh bien, que la joie soit d'une manière logique sur les visages des chrétiens. Des chrétiens, ils viennent, ils annoncent l'évangile, ils parlent d'un Dieu plein de joie, plein d'amour, mais eux-mêmes, ils sont tristes sur leur visage. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Parce que vous savez, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, mais c'est aussi la joie. Mais je voudrais terminer ce partage en rappelant ce qu'a été l'expérience de quelques femmes. Quelques femmes qui étaient, elles aussi, devant un véritable défi. Elles aussi, elles s'en allaient au tombeau, mais pas celui de Lazare, mais ils s'en allaient au tombeau là où, 3 jours auparavant, on avait enseveli le corps du Seigneur Jésus. Je dis quelques femmes, c'était 2 femmes, Marie de Magdala et Marie, mère de Salomé et de Jacques. Et sur la route qui les menait au tombeau de Jésus, elles se sont également lancées indirectement, inconsciemment, un défi. Et toutes les deux se posaient la question suivante, on peut le lire, Marc chapitre 16 du verset 1 à 4, très rapidement, on a bientôt terminé. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Là, il y aurait beaucoup à dire. Jésus, c'est notre soleil de justice. C'est le soleil levant. C'est pour ça, dans notre étude sur le tabernacle, eh bien, mardi après mardi, eh bien, j'ai expliqué que la porte, la seule porte qui nous permet d'entrer dans le parvis, mais aussi dans le lieu saint et dans le lieu très saint, se trouvait à l'est. Et pour nous, l'est, on le sait très bien, le soleil se lève à l'est. Il y avait toute une volonté de la part de Dieu. Il est le soleil levant. Il est celui qui est capable eh bien, d'extirper toute forme de ténèbres et de faire lever le soleil de justice dans votre vie. Elles disaient entre elles, et voilà donc le défi qu'elles se sont lancées, mais qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? Et elles n'ont pas fini eh bien, de pouvoir poser cette question, que lorsqu'elles sont arrivées, c'est les versets suivants, eh bien, elles découvrent un jeune homme assis, et finalement ce jeune homme c'était ni plus ni moins eh bien, un ange qui quelque part a relevé eh bien, de la part de Dieu leur défi. Puisqu'il avait lui-même roulé la pierre. Mais plus que l'ange, l'Esprit de Dieu avait fait quelque chose de plus grand encore. Il avait ressuscité le corps du Seigneur Jésus. Ils ont cherché, elles voulaient embaumer le corps de Jésus. Mais Jésus n'était plus là. Les linges étaient pliés. Ça, on pourrait en parler aussi. Mais Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là parce que Jésus, il est ressuscité. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 11, dernier verset, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en nous, alors il n'y aura, écoutez bien, pas de défi que nous ne serons relevés. Et je voudrais terminer en disant, et on va baisser les têtes, fermer les yeux, que peut-être que, tout comme ces femmes, tu t'es toi aussi, consciemment ou inconsciemment, lancé personnellement un défi. Et ce défi, peut-être il concerne le salut de tes enfants, le salut d'un des membres de ta famille, le salut de tes amis ou collègues de travail. Peut-être que ton défi à toi, c'est d'arriver à parler enfin de ta foi, sans timidité et sans crainte. Peut-être que le défi qui est devant toi, c'est de pouvoir donner à tes enfants une éducation chrétienne au beau milieu d'un monde qui est en perte de valeur morale. Ton défi à toi ce matin, mon frère, ma sœur, c'est peut-être de ranimer l'amour dans ton couple. C'est de t'engager davantage dans le service pour Dieu. Et ton défi à toi, c'est peut-être de régler un différend avec une personne. C'est d'être plus fidèle et zélé pour Dieu et les choses de Dieu. Eh bien, le Seigneur, par son esprit, se propose de relever ce défi avec toi. À nous, bien sûr, d'implorer la grâce de Dieu. À nous, bien sûr, de faire agir notre foi et de nous attendre au miracle de Dieu, nous attendre à la gloire de Dieu. Parce que Dieu change les temps, les circonstances. Dieu change, alléluia, les ténèbres en lumière. Dieu est capable d'intervenir même ce matin. Et si tu te sens concerné, alléluia, par bien ce message ce matin, est-ce que tu es capable de pouvoir te lever ? Et ensemble, nous allons demander, Seigneur, aide-nous, alléluia, à pouvoir relever le défi qui se trouve dans ma vie. Finalement, la vie entière est un ensemble de défis. Il nous faut se lever le matin. C'est un défi quelque part. Tout est un défi. Mais nous, chrétiens, nous avons des défis spirituels devant nous. Nous avons des attentes, nous avons des besoins que Dieu connaît, qui sont autant de défis que le Seigneur voudrait relever avec nous. Mais puissions-nous mettre notre foi en action ? Et Dieu veut nous y aider. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur Père éternel. Tu l'as dit, Seigneur, à la fin de ce premier verset que nous avons lu. Oui, Seigneur Père éternel, ils seront confondus. Tous ceux qui te lancent des défis seront confondus. Parce que, Seigneur Père mon Dieu, tu es celui, Seigneur Père mon Dieu, qui peut tout et rien n'est impossible à toi. Ta gloire, elle est manifeste, elle est constante. C'est pourquoi, Seigneur, aucun, tout homme est inexcusable devant toi. Seigneur, remplis-nous de joie, remplis-nous, Seigneur, de ta paix, mais aussi de ton amour, Seigneur, pour aimer les âmes, Seigneur Père éternel. Et nous nous présentons devant toi, tous ceux et celles qui se sont levés, avec moi-même qui suis déjà debout. Seigneur, nous avons des défis devant nous. Seigneur Père, nous voudrions avancer et entendre comme les disciples, passons à l'autre bord et monter, Seigneur Père, mon Dieu, en barque, sachant que tu es le capitaine de notre bateau. Seigneur, quel que soit le défi qui se trouve devant nous, au nom de Jésus, avec Dieu je franchis une muraille, avec Dieu je ferai des exploits. Seigneur, tu peux tout, Seigneur. Tu nous demandes d'oser par la foi. Seigneur, le pouvoir, Seigneur Père, mon Dieu, nous attendra à toi. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, active notre foi, renouvelle notre foi, donne-nous d'être dynamique, donne-nous d'être zélé, donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'arrêter ce langage négatif, Seigneur Père, pour proclamer, Seigneur Père, ce qui est notre partage et ce qui est notre lot, au nom de Jésus-Christ. Tu vois ceux et celles qui sont dans des difficultés, ceux et celles qui sont devant des géants, ceux et celles, Seigneur Père mon Dieu, qui sont en lutte, Seigneur Père mon Dieu, dans des conflits, dans des combats, interviens, glorifie-toi. Oui, Seigneur, tu as libéré, Seigneur, nos cages. Oh Seigneur Père, mon Dieu, une malédiction sans cause n'a plus d'effet. Mon âme te loue, mon âme te bénit. À toi toute la gloire. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis même les personnes qui viennent pour là ou les premières fois parmi nous. Fortifie-les, mon Dieu, que tu puisses te révéler à leur cœur, Seigneur. Et qu'ils voient combien tu es un Dieu vivant et vrai. Tu sèches les larmes. Seigneur, tu renouvelles, tu fortifies. À toi revient toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, gloire à Dieu.